Disponible en podcast.
Podcast. Cette émission est réservée à un public averti.
Notre nouvelle émission sur Radio Pont. Des critiques d'actualité sur les réseaux sociaux.
C'est Baptiste Moireau. Alors, est-ce que vous le connaissez? C'est bien quelqu'un qui a fait un direct dans sa chambre.
Mais si, je suis très lâche.
Des animateurs complètement fous.
T'es pas quand même censé savoir qu'elle allait rentrer dans ta chambre à ce moment-là.
Ainsi que des événements à ne pas manquer.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Francofolies qui se déroulent cet été à La Rochelle.
Un maximum de cadeaux.
Coucou.
Vous préférez que quand vous vous mouchez, vous faites un bruit de trompette ou que quand vous pétez, vous fassiez un bruit d'orgue d'église?
Moucher
la
trompette.
Voilà, son rire, elle est magique à elle.
Oh putain.
Eh bien, on te remercie d'avoir participé à l'émission. On t'offre des places pour Planète Exotica.
Ouais, c'est trop génial. Super, vous verrez tous les deux. Il faut aimer la page, les gars.
17h30 sur Radio Pont. Allez, les 17h34, on est sur Radio Pont, je suis actuellement avec Debo dans le studio.
Coucou Antoine.
Eh bien salut Debo, nous sommes dans l'émission Unless, nous sommes le 31 mai 2017, c'est une émission actuellement en direct. Alors dans cette émission, nous allons parler du N-Spinner en première partie. En deuxième partie, nous allons passer Lucas Bourasso qui va gagner ses places pour le Futuroscope et nous raconter une histoire qui est assez folle. Et en troisième partie, on va avoir une interview avec Alex Rebec qui est le directeur commercial du Hellfest. Communication ? Communication, ouais, enfin tout ça. Il fait partie de la direction, on va dire, voilà. Donc on a une interview avec lui, on vous fait écouter dans cette émission des musiques de métal parce que c'est approprié au monde du Hellfest. Donc c'est cette émission, donc justement on va bien mettre les choses au clair.
Ouais.
On est là ici pour faire découvrir des choses, donc il n'y a pas toujours que des musiques bim bam boum comme vous pouvez entendre avant l'émission, voilà. Là on va vous faire passer deux ou trois musiques comme ça et puis après on va continuer sur du métal, notamment avant et après l'interview du Hellfest. Alors Debo, as-tu quelque chose de spécial à dire?
Ben non, j'ai juste hâte de commencer.
Mais... bon bah écoute, on va commencer de suite. On s'écoute Tyro Hydegrade. Alors je vous passe tout de suite ça. On est sur Radio Pont. Bienvenue à toutes et à tous.
Je viens à peine de la voir et vous voulez déjà me la prendre. Même si avec elle je pouvais deviner à quoi m'attendre. Me dites pas que vous n'avez pas mieux à faire, il y a plein de gens à défendre. Puis de toute façon, tout le monde sait qu'elle finira ensemble. Vendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Soyez cool, monsieur l'officier. Laissez-moi ma high grade, high grade, high grade. C'est juste un tout petit sachet. Rendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Y'a vraiment pas de quoi se fâcher. Laissez-moi ma high grade, high grade, high grade. À peine 14h quand je sors de chez moi avec mon spliff. La zig dans les oreilles, mon esprit est ailleurs, je suis pas attentif. Juste derrière moi, là sur le trottoir, se tenait un flic. Quand il a senti l'odeur, la situation est devenue problématique. Tout d'un coup, une ceinture me plaque contre le mur. Me dit, petit voyou, on peut jouer les durs. Je lui dis doucement, la bavure, c'est pas de la drogue dure. Repassez tout à l'heure que je vous montre la facture. Elle est bonne, elle est pure, c'est dans la nature. Y'a sûrement pas de quoi me faire une fracture. Interdit par la loi, c'est pas dans votre culture. Mais soyez sympa, faites preuve d'ouverture. Rendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Soyez cool, monsieur l'officier, laissez-moi ma high grade, high grade, high grade. C'est juste un tout petit sachet. Rendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Y'a vraiment pas de quoi se fâcher. Laissez-moi ma high grade, high grade, high grade, high grade. Doit-on vraiment enfermer ce qui la fume et la console?
Oh, no.
Aujourd'hui tout le monde le sait. Elle n'a jamais tué personne. Pour l'anorexie on la donne. Il paraît qu'elle est bonne. Contre l'alcool fonctionne. En Californie on s'étonne qu'on nous emprisonne quand leur médecin la cautionne. Et je ne remets même pas ce vieux débat sur la table au sujet de l'alcool. Il fait bien plus de dégâts. Vendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Soyez cool monsieur l'officier. Laissez-moi ma high grade, high grade, high grade. C'est juste un tout petit sachet. Rendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Y'a vraiment pas de quoi se fâcher. Laissez-moi ma high grade, high grade, high grade. Rendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Soyez cool monsieur l'officier. Laissez-moi ma high grade, high grade, high grade. C'est juste un tout petit sachet. Rendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Y'a vraiment pas de quoi se fâcher. Laissez-moi ma high grade, high grade, high grade, high grade.
Pourquoi vouloir faire de moi un délinquant, un voyou, un hors la loi, alors qu'il serait si facile de me la rendre et de me laisser tranquille.
On est de retour dans Unless, nous étions avec Tyro High Grade. Alors tout de suite on va parler du hand spinner. Est-ce que tu sais ce que c'est, Debo, le hand spinner?
Ouais, la toupie pour les autistes.
Voilà, alors on va parler de suite, c'est un joli résumé. Alors qu'est-ce que le hand spinner? Le hand spinner c'est une sorte de toupie à faire tourner entre ses doigts. Ça envahit actuellement les cours de récréation. Ce gadget était utilisé au départ pour défendre les enfants atteints d'autisme. Alors pourquoi les ados en raffolent? Eh bien tout d'abord parce que le hand spinner aurait des bienfaits chez les enfants souffrant d'autisme. L'objet aurait permis à des enfants qui ont tant de difficultés à nouer des relations avec leurs camarades de se socialiser en jouant avec eux autour de ces Fidget Spinner. Mais cette toupie moderne fait fureur chez tous les enfants. L'ampleur du phénomène est imposante, comme l'indique une mère de famille du HuffPost américain. C'est comme si tout d'un coup, tout le monde devenait autiste. Depuis, les hand spinners ont aussi débarqué dans l'hexagone, envahissant à leur tour les cours de récréation. L'objet permettrait, selon leurs utilisateurs, de mieux canaliser l'attention et favoriser la concentration et d'atténuer le stress avec un effet apaisant, satisfaisant, car ce jouet, en tournant très vite, crée un effet agréable d'opticle et fait en plus aucun bruit.
J'ai une question à te poser, Antoine.
Vas-y.
Est-ce que tu sais pourquoi ce jouet a été créé à la base? Pour l'autisme, certes, mais qui l'a créé?
Ah, ça, j'avais vu l'autre jour, mais honnêtement, je l'ai pas retenu. Vas-y, dis-moi tout.
Alors, je vais t'expliquer. À la base, c'est une maman. Sa fille a été atteinte d'une maladie qui causait des faiblesses musculaires. Mmh. Elle a créé ce jeu avec tout ce qu'elle trouvait. Et en fait, elle a remarqué que cet enfant, atteinte de maladie, pouvait la faire tourner et lui donner le sourire. Du coup, c'est grâce à ça qu'elle l'a voulu commercialiser en Amérique. Sauf que ça n'a pas fait fureur et arrivé sur les réseaux sociaux... Tu regardes bien aujourd'hui, hein, tout le monde a des hand spinners, on est bien d'accord.
C'est ça, c'est ça.
Et ben en fait, comme elle n'a pas déposé de brevet, elle n'a reçu aucun centime pour cette toupie-là.
D'accord, donc en fait, on lui a pris le truc et puis en plus, elle a rien gagné alors que tout
c'est
le monde a actuellement
ça.
Fait fureur avec ce truc.
C'est exactement
alors,
ça.
Alors l'autre jour, j'ai regardé des informations et ils disaient, enfin, il y avait les profs, les instituts de primaire, ils disaient, ouais, nanan, tout le monde actuellement a des hand spinners et tout, ça réduit la socialisation ou je sais plus quoi. Et puis je me suis dit, mais de toute façon, c'est pas pareil que ça avait une console ou quoi, quoi. C'est-à-dire que là, enfin, t'es avec les autres ou quoi, et même nous, des fois, enfin, il y en a un qui a ça en cours, et il le fait tourner, enfin, il embête personne avec ça, quoi, tu vois.
Ouais, non, mais.
Et puis ça peut déstresser les gens.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, j'ai vu que ça a socialisé beaucoup les gens. Mmh. Genre, dès que tu vois quelqu'un dans la rue avec un hand spinner, perso, t'as juste envie d'aller le voir et puis lui demander de jouer avec, tellement c'est cool quoi en fait.
Et c'est ça, c'est cool, ça crée du lien vraiment entre les gens en fait.
Ouais, c'est ça.
Du coup, ouais, c'est. Enfin, franchement, je trouve que c'est un bon truc, ça fait fureur en ce moment. Enfin, tu sais, il y a énormément de choses qui passent, etc. Les derniers
ouais,
objets
voilà,
à la mode
ça...
et tout. Ça va passer un
ça
jour le hand spinner, mais bon, pour l'instant, voilà. T'en as un hand spinner toi?
Oui.
Alors, est-ce que tu es devenu autiste?
Ouais, et j'en suis fier.
D'accord, donc Debo est autiste.
Oh là là!
Mes chers amis, on va s'écouter de suite. Eh bien, Jax Jones, You Don't Know Me, oulala, parce que mon. C'est un petit peu le bazar dans mon conducteur. Eh bien, on s'écoute Jack Jones, You Don't Know Me. Je vais enfin y arriver.
Tu vas t'en sortir.
Il est 17h42, on est sur Unless, sur Radio Pont. Time is money, so don't fuck with mine. See him out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, oh yeah. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, ooh, ooh. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. Allons, on s'écoute de suite Rag & Bone Man Human. Il est 17h47. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Pont. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Allez, on passe vite dans cette deuxième partie d'émission. On va être avec Lucas qui va nous raconter une histoire un peu folle. Allô Lucas ?
Allô ?
Allô Lucas ?
Oui.
Ça va ?
Oui.
Dis-moi, tu nous appelles d'où Lucas ?
La Vendée, la Ferrière.
Oula, la Ferrière, ça se trouve à côté d'où ça ?
La Roche-sur-Yon.
Ah, tu nous appelles de loin. Alors toi, tu nous as contacté parce que tu avais une histoire un peu bizarre. Enfin, j'ai trouvé ça assez drôle et je me suis dit, tiens, on va la partager à la radio. Que t'est-il arrivé, mon petit Lucas ?
Bah, quand je suis allé en concours sur Paris, vu que je suis cavalier, on s'est arrêté sur une route pour manger.
D'accord.
Et en fait, quand on a appris les sandwichs, on arrivait dans la voiture et il y avait des trucs bizarres. Enfin, la voiture d'à côté, elle tremblait. Je me suis demandé pourquoi. Mmh. Et en fait, c'est qu'il y avait une meuf, elle était en train de se taper la queue de son mec quand il était au volant.
Ah, c'est bon ça.
Attends, c'était vers où que tu as vu ça?
Paris, à l'entrée de Paris.
Ah bah c'est des choux à Paris, dis donc. C'était pas le Bois de Boulogne par hasard?
Non.
Oh là là. Vous avez réagi comment vous quand vous avez vu ça?
Bah moi j'avais plus faim. Hein.
T'avais commandé quoi?
Un McDo.
Ah bah dis donc, il a terminé où le McDo du coup?
Dans la voiture qu'il est maintenant.
Ah là 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 là. Et du coup les gens qui t'accompagnaient, ils ont réagi comment?
Ils ont fait, mais regarde pas, ils vont partir.
Ah parce que toi t'étais penché pour regarder ce qui se passait?
Bah non, mais j'avais la tête tournée vers eux.
D'accord, ok. On sait jamais, c'est intéressant ce qui se passe. Mon petit Lucas, est-ce que ça t'a choqué?
Bah un peu.
Est-ce que t'en rêves la nuit de ça?
Quand même pas. Un peu bizarre parce qu'ils nous ont vus quand même quand ils faisaient leurs choses là.
Attends, ils vous ont vus, ils vous ont continué? Enfin ils ont continué?
Un peu, ouais.
J'espère qu'ils vous ont pas invité quand même à participer avec eux.
Non, ça va.
T'auras accepté, toi?
Non.
Ouais, c'est cela. Ah là là. Eh bien, écoute, Lucas, tu as participé à notre émission. Alors, c'est-à-dire qu'on va te faire gagner des places pour le Futuroscope. Es-tu content?
Ah bah oui, je suis super content.
Eh bien écoute, avec nous, la bande-annonce du Futuroscope, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses.
Ceci est un message pour les visiteurs du Futuroscope. Après avoir plané d'un continent à l'autre dans la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage, les visiteurs n'ont plus envie de redescendre sur Terre. Emportés jusqu'au ciel par le spectacle nocturne, ils passent toute la nuit la tête dans les étoiles. Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend.
Donc voilà, tu vas pouvoir aller au Futuroscope avec la personne de ton choix. J'espère que tu vas apprécier. Es-tu déjà allé au Futuroscope ?
Oui, plein de fois.
Est-ce que tu as aimé ?
Ah bah oui.
Ça fait combien de temps que tu n'y es pas allé ?
3 ans.
Ah bah tu vas voir, moi j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Et l'extraordinaire voyage, enfin là ce qu'ils disent dans la bande-annonce, c'est vraiment un truc super. Enfin, t'as les odeurs, t'as les mouvements, t'as la 3D et tout. Franchement c'est génial, c'est un voyage un peu à travers l'univers. Enfin tu voyages partout dans le monde et franchement c'est un truc, c'est super.
C'est trop bien.
Donc voilà, eh bien, écoute, j'espère que t'es content. Voilà, tu gagnes tes places avec Radio Pont, t'envoies tout ça, ça marche?
D'accord.
Eh bien parfait.
Merci.
Et bien voilà, nous étions avec Lucas qui vient de gagner ses places pour le Futuroscope. Si vous aussi vous avez envie de gagner des places pour différents parcs, vous likez la page Unless sur Facebook, Unless UNLE2S. Vous vous tenez au courant, vous allez voir, enfin on met souvent les places qu'on fait gagner, etc. Il n'y a pas de souci, vous nous envoyez un message en privé, ce que vous voulez raconter ou quoi, on fait gagner des places pour les parcs qu'on vous propose. Voilà.
Et toi Antoine, t'as déjà été au Futuroscope ?
Oh, si moi j'y suis allé, oui j'y suis allé, c'était en décembre dernier.
Avec qui ?
J'y suis allé avec Anaïs. C'est une amie à moi, voilà, voilà.
Comment tu as été, tu as gagné des places ?
Alors oui, j'ai eu aussi la magie de la radio d'un autre côté. Alors il faut savoir que moi le matin, quand j'allais au lycée, dans le bus, il mettait Mix FM, tu vois. Et une fois le matin, il propose, il dit « Machin, appelez-nous en direct et on fait gagner des places pour le Futuroscope ». Alors qu'est-ce que je fais ? Ben moi, je décroche mon téléphone, quoi, qui ne tente pas à faire rien de camping. Et donc du coup, ben, j'appelle et puis il me dit « Alors, comment tu t'appelles ?» Nanana. Alors je lui dis que je m'appelle Antoine, je lui dis que j'ai 16 ans, bientôt 17. Et puis il me demande « Mais est-ce que tu veux gagner tes places ?» Enfin,
oui.
Tu vois ce que je veux dire, voilà.
Oui, t'inquiète.
J'ai un peu bugué. Et donc du coup, il me pose une question et puis il me dit « En quelle année était fait le Futuroscope ? Est-ce qu'il était fait en 1987 ou est-ce qu'il était fait en 2010 ?» J'avais particulièrement que c'est 87, enfin, il date de super longtemps le Futuroscope, il change souvent les attractions. Et donc du coup, bah, il m'a fait gagner les places et puis donc moi, bah, la tête dans les fesses comme tous les matins, tu vois, je fais « Ouais, trop cool !» Et puis il me fait « Oh là là, la joie de vivre !» Et puis après, il me fait « Bon, bah, tu sais quoi, en plus, pour te booster un peu, et bien là, on t'offre un chèque de 100 euros pour le Futuroscope !»
Eh bah ça va, on se met
bien.
Bah,
allez hop, un Futuroscope de 100 euros, ouais, trop bien. Bon, j'ai pas trop hurlé non plus parce que sinon, on allait avoir un accident, mais bon... Comme ça, j'aurais pas pu aller au Futuroscope si on avait eu un accident, écoute.
Oh là là.
Et donc, du coup, j'y suis allé au Futuroscope. Et puis, bon, bah, petite surprise, le poteau rose, quand on arrive là-bas, il me dit « Alors, ton Futuroscope, tu vas pouvoir l'utiliser, mais que d'un seul coup.
»
Ah, donc, soit ça va être 100 euros de bouffe, soit 100 euros de souvenirs, soit 100 euros de rien du tout.
Ah ouais, t'as choisi
voilà,
quoi, du coup
En fait, j'ai pris les souvenirs. Je suis arrivé dans la boutique là-bas. Et puis, du coup, je regarde les prix, tu vois, donc bon... C'était. J'ai commencé à mettre les affaires dans le panier, tu vois. Donc je mets les affaires et tout. Et puis à la fin, enfin, je me suis dit, ça va être génial, j'ai mon Futuroscope, je vais pouvoir payer comme ça. Alors du coup, ben, j'arrive et puis la caissière me demande comment vous allez payer, etc. Et là, je lui sors, j'ai fait, tiens, c'est Mix FM, c'est le Futuroscope. Donc du coup, j'étais grave content de moi. Et puis j'ai acheté mais plein de trucs. J'avais 2 sacs qui étaient remplis à fond la caisse. C'était mais trop bien.
Bah nickel. Et t'as prévu d'y retourner sinon ?
Et c'est, bah écoute, ouais, pourquoi pas, je vais essayer d'y retourner pendant l'été, parce que franchement, en plus c'est pas très loin, et puis ça serait cool quoi. Alors Anaïs nous dit sur le direct Facebook avec moi. On verra ça chérie. Eh bien écoute, toi tu es déjà allé au Futuroscope ?
Jamais.
Est-ce que tu aimerais y aller ?
Bah pourquoi pas.
Eh bien écoute, c'est une bonne occasion, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi pour t'y emmener au Futuroscope.
Bah
alors.
J'espère bien.
En plus c'est à Poitiers le Futuroscope, donc c'est pas si loin de ça.
Bah oui.
C'est toujours en Poitou-Charentes, donc bon... Tranquille. Oui, c'est toujours en Poitou-Charentes. Tu sais, il y a Deux-Sèvres, la Vienne et tout. Voilà. Et puis, ouais, il y a une attraction aussi que j'ai bien aimée au Futuroscope. C'était le dynamique de la Vienne. C'est en fait quelqu'un qui est en retard à son mariage. Mm-hmm. Et puis, en fait, il y a les sièges qui bougent dans tous les sens, etc. Enfin, t'as de l'air et tout.
Ouais.
Et puis, en fait, au bout d'un moment, il est dans une Formule 1 et tout. Et genre, t'as les sièges qui bougent dans tous les sens. Ouah, tu décolles et tout. Enfin, c'est. Franchement, ouais, c'est un truc à faire, quoi.
Ouais, ça doit être cool, quoi.
T'as fait un autre parc sinon, toi ?
J'ai fait Disney pendant les vacances de Noël.
Ah ça, j'ai
Noël.
Jamais fait, j'aimerais bien faire Disney.
Eh ben en période de Noël, je peux te dire que c'est juste magique.
Ah ouais ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux dire de spécial par rapport aux attractions ou quoi ?
Bah déjà, t'as plusieurs attractions pour différents âges. Mm-hmm. T'en avais pour tous les tout petits, pour les un peu plus grands, pour les adultes. Vraiment, c'est super cool.
Il me semble que t'as un frère
de 11 ans.
Il a pu accéder à toutes les attractions
Toutes.
Ah bah c'est cool.
Toutes, et tu vois, j'étais aussi avec deux petits enfants de 3 et 5 ans, et puis ils se sont aussi bien éclatés que nous. Mm-hmm. Donc t'as le côté parc de jeux, et puis tout le côté studio, où tu peux découvrir plein de trucs et tout, donc c'est vraiment super cool. Puis Disney, bah voilà, hein, c'est mon côté gamin, donc
c'est ça.
J'adore ça, quoi.
Puis, c'est quoi l'attraction que t'as le plus préféré, quoi?
Bah un peu comme tout le monde, le Space Mountain.
Ah, c'est quoi juste le Space Mountain? Parce que tout le monde m'en parle, mais j'ai jamais su concrètement ce que c'était que le Space Mountain.
Alors en fait, t'es dans... Comment dire ça? Comme dans un petit vaisseau, une navette, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Tu commences à partir et en fait, c'est des grandes montagnes russes, mais genre Luna Park, puissance 10 000. Et vraiment, tu t'éclates, il y a des sensations, mais genre vraiment, tu vois, comme on aime.
Mm-hmm, bien sûr.
Et puis à la fin, mais limite, tu te fais pipi dessus quand même.
Ah ouais?
Ah ouais, je te jure.
Ça a pas trop envie de vomir?
Non, pas du tout. Bah non, après, bah cool. Mon cœur est bien attaché.
Manèges, comme cet été, l'été dernier, j'étais allé au Luna Park. Et puis autant les manèges, oui, t'y allais avec moi. Donc, je sais. Autant il y a des manèges, bon, c'est des mouvements qui sont circulaires, ouais. Du coup, ça se répète, du coup, voilà. Mais il y en a un, je me souviens, où on était en banquette, on avait vu, il y avait du vomi en bas.
Ah oui, bien vu, où j'étais pas bien. Ouais.
Bah d'ailleurs, quand en fait, c'est un manège, pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de vous décrire ça assez simplement quand même. C'est un espèce de plateau qui tourne, où il y a deux banquettes de chaque côté du plateau.
Qui tourne sur lui-même et après...
C'est ça, qui tourne sur lui-même. Alors, les deux nacelles. Banquettes tournent sur elles-mêmes, donc c'est-à-dire de haut vers le bas. Et puis le tout en fait a une forme qui fait que...
Un sablier un
petit
peu.
Ça passe de gauche à droite. Ouais, ça ressemble vraiment à un sablier. Ouais. Donc au début, moi j'étais content, je fais le manège, etc. Quand ça commence à retourner, j'ai cru que j'étais devenu stérile, moi, tu vois, au passage.
Oui. Oh là là.
Et donc du coup, lui, il m'avait brassé le ventre, alors pourtant, je suis super adepte de toutes les sensations, ouais, tout ce qu'il peut y avoir et tout, enfin, il n'y a aucun souci, mais lui, il m'avait brassé le ventre, heureusement que j'avais pas trop mangé avant, parce que sinon, je crois que ça aurait fait comme le mec par terre, quoi.
Puis petite anecdote, tu te souviens de la bataille d'eau après qu'on a fait pour les gens, tu sais, qu'il fallait, s'ils voulaient vomir
et tout,
oui, parce qu'en bataille d'eau
avec l'eau. En fait, si vous voulez, au bout d'un moment, la banquette penche vers le bas, donc on a tête vers le bas, et là, il y a des jets d'eau qui viennent, mais à pas beaucoup de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, avec nos mains, on fouette l'eau comme ça, et du coup, on arrose les gens, on arrose le public. Toi, je t'arrosais, t'étais trempé.
Ah ouais,
mais bon, ce qui était un peu dégoûtant quand même, c'est que le vomi en fait remontait avec l'eau en même temps parce que ça fait un circuit.
Faut bien des inconvénients aussi.
Donc bon, bah tu t'es reçu un peu de vomi dans les chemins, je suis désolé. Voilà, et puis sinon, en part d'attraction, il y a quoi que t'aimerais bien faire toi?
Il y a le Puy du Fou, j'aimerais bien refaire.
Alors le Puy du Fou, il faut savoir à ceux qui nous écoutent actuellement que j'ai fait des demandes et puis ils m'ont dit de les recontacter au mois de décembre. Donc environ vers décembre, je vais pouvoir vous proposer des places pour le Puy du Fou. Les gens, donc contactez-nous sur la page Facebook à partir de cette époque-là. Et puis on va essayer de vous faire gagner des places pour le Puy du Fou. Et puis normalement, vous êtes partis avec Radio Pont au Puy du Fou. Et puis si t'es chanceuse, peut-être que je t'en laisserai une, on verra.
Ce serait gentil. Puis si vous avez des idées de parc ou n'importe quoi pour gagner des places, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour vous.
C'est ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez nous demander tout, n'importe quoi.
Je vais essayer de voir pour des restos,
mm-hmm.
pour des bons de réduction dans des magasins ou dans des trucs
tu
comme ça.
Tu mets l'eau à la bouche là avec les restos.
Tu vois. Donc je vais essayer de voir ça de mon côté pendant les semaines qui vont suivre et puis,
voilà,
vous tiendra au courant.
Tenez-vous au courant sur la page Facebook de l'émission Unless, UNLE2S. Et puis on met les actualités, etc. Moi, yes. comme des beaux. Et puis vous participez, il n'y a aucun souci, vous nous envoyez un message. On vous demande vos coordonnées, etc. Enfin, ne vous inquiétez pas, on répond à tous les messages. Vous demandez ce que vous voulez, et puis on essaye d'étudier ça pour vous l'offrir sur Radio Pont dans notre émission. Eh bien, mes chers amis, moi, j'aimerais bien faire un parc qui s'appelle le parc Astérix.
Ah, c'est ce que j'allais te dire aussi.
Je sais pas où il se trouve, mais je sais qu'il y a un parc Astérix.
Oh, est-ce que tu sais qu'il y a un parc Ferrari?
Ah bon?
Je te jure.
Il se trouve en France?
Non, je crois qu'il est en Espagne. Alors, m'en voulez pas si je dis une grosse bêtise.
Je m'y crois.
Et tu peux faire un tour dans une Ferrari, machin, mais ça a l'air super cool.
Je l'ai vu sur Facebook, ça, l'autre jour. J'ai vu, enfin, il y a aussi en Espagne un parc qui est super connu, c'est PortAventura.
Ouais.
Je dis pas que l'accent, c'est PortAventura. Elle est chorée. Bref, PortAventura, et ça a l'air pas mal aussi, franchement.
Ouais, aussi,
c'est,
ouais.
Ce que j'aime bien, système de parc, c'est que, en fait, PortAventura, ça ressemble vraiment à un Luna Park, etc. Sauf qu'en fait, tu payes juste l'entrée, et puis après, tu fais autant de fois que tu veux les manèges.
C'est ça.
Quoi.
C'est ça.
Alors que autant Disney, ça reste quand même dans un univers de Disney, enfin. C'est,
c'est pour les
petits comme pour les grands, etc. Oh, est-ce que la Disney t'a fait la tour infernale, il me semble? C'est quelque chose comme ça, un ascenseur qui tombe?
Non, je l'ai pas fait, tout simplement parce que... Alors là, petite anecdote, les enfants avec qui on était ont eu peur pour nous.
Mm-hmm.
Et en fait, ils nous ont dit que si on allait le faire, on allait mourir et tout. Du coup, pour pas leur faire peur, on l'a pas fait.
Du voilà. coup, vous l'avez pas fait.
Non.
Et t'y restais un jour à Disney ou
J'y suis resté deux jours, j'ai dormi là-bas et puis un jour, tu peux rien. Honnêtement, t'as pas le temps de tout faire. C'est tellement grand qu'en une journée, on n'avait même pas fini le parc et tout. Mmh. Et on n'avait pas encore visité les studios. Donc deux jours, je pense que c'est déjà pas mal, voire trois, ce serait excellent. Quoi.
Il me semble qu'il y a deux parcs à Disney. C'est
Ouais, le parc d'attractions. Mmh. Avec tout l'univers Disney et puis à l'autre côté c'est les studios donc plus Pixar.
D'accord, t'as visité les studios ?
Ouais.
Et qu'est-ce que tu vois concrètement dans les studios en fait de...
Ils te font voir comment est fabriqué un Disney. Mm-hmm. Comment sont imaginés aussi les personnages parce que faut bien quelqu'un qui les
bien
imagine.
Sûr, bien sûr.
Et puis mais ça t'apprend vraiment plein de trucs sur l'évolution de Disney, de Pixar et c'est vraiment super intéressant.
Est-ce que tu peux nous dire un peu les techniques qu'ils utilisent pour les Disney ou quoi ? C'est à l'ordinateur ?
Est-ce que c'est tout
à la photo, à la vidéo ?
C'est tout par ordinateur, par numérisation de photos et tout, donc vive la technologie. Hein.
Ouais, c'est ça, vive la technologie. Mais écoute, on va rester un peu dans le monde du cinéma. J'ai vu qu'il est sorti actuellement la 4DX. Alors, qu'est-ce que la 4DX ?
Bonne question.
Alors, la 4DX, en fait, avant, vous aviez simplement la stéréo, donc c'est-à-dire que la salle était séparée de son de gauche à droite. Mmh. Il y a eu la 5.1 de Sony, c'est-à-dire qu'il y a eu des enceintes qui étaient... en gros, il y avait le devant, le derrière, les côtés.
Ouais.
En gros, pour que ça rentre sous les côtés. Ouais. Après, il y a eu la 7.2 qui, elle, faisait, il me semble, dans les angles avec. Et puis après, il y a eu la dernière version, il me semble, c'est le Dolby Digital Stéréo,
un truc comme ça. Ouais.
Et en fait, c'est en 360 dans toute la salle. Il y a des enceintes sur le plafond, etc. Et l'Atlantic Ciné Saint le fait. Et là, ils ont sorti la 4DX. Alors, qu'est-ce que la 4DX ? On a eu la 3D. Mm-hmm. Là, on a la 4D. Alors, la 4D, c'est-à-dire que nous avons, 4DX, nous avons non seulement l'image qui est en 3D.
D'accord.
Nous avons les odeurs.
Ouais.
Nous avons l'eau, nous avons le vent, nous avons les bulles, nous avons la mousse, enfin plein de trucs dans tous les sens. Et clou du spectacle, les sièges bougent.
C'est vrai ?
Alors moi j'ai testé Futuroscope, les sièges qui bougent dans tous les sens. Bon après c'est bien adapté pour des petits films qui durent 10 minutes etc. Ouais. Sauf qu'en fait là ils ont adapté ça sur des films de 1h30.
Faut pas avoir des problèmes cardiaques et de dos. Hein.
Alors voilà, donc j'écoutais l'autre jour, c'était sur le site 01net, ils expliquaient un peu comment ça se passait. Et en fait, c'est pas du tout violent. C'est-à-dire qu'il va y avoir des scènes, par exemple, en course-poursuite où ça va bouger un petit peu, etc. Tu vas vraiment être. Apparemment, c'est très réactif. Donc c'est-à-dire que la personne est tournée à droite, t'as vraiment l'impression de tourner à droite avec elle. Puis par exemple, je sais pas si il freine d'un coup, tu vas voir l'odeur des pneus brûlés qu'il va avoir, etc. Et par contre, si c'est une scène par exemple qui est douce, donc c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui dansent, etc., et bien tu vas avoir l'impression de danser avec eux en fait. Il va y avoir le siège, ça va être
vraiment
tout,
interactif et tout quoi.
C'est ça, donc en fait, le siège ne bouge pas tout le temps, c'est pas tout le temps en train de bouger, vibrer dans tous les sens, à moindre geste, il lève le bras droit ou ouais. Tu t'envoles pas à l'autre bout de la salle quoi. Donc voilà, c'est la 4DX, c'est sorti actuellement à Villejuif, il me semble. Non, c'est La Villette, Paris-La-Villette. C'est au cinéma Gaumont-Pathé et franchement, honnêtement, si j'avais l'occasion d'y aller juste pour voir tester, tu vois,
c'est cool.
C'est... Alors, au niveau prix, j'ai vu que c'était 8€ de plus qu'une séance normale, donc ça fait un petit peu cher pour le moment. Mais d'un côté, ça vient tout juste de sortir.
Ouais, on va attendre que ça se développe un peu.
Ça va se développer, mais par contre, ce qui est dommage, c'est que les cinémas qui sont déjà existants ne pourront pas avoir ça. C'est-à-dire qu'il faut créer une salle spécialement pour ça. Ils pourront pas adapter les salles comme quand il y a eu la 3D, on a pu adapter les salles, changer juste le vidéoprojecteur ou quoi. Là, non, il faut vraiment créer une salle pour ça et donc c'est pour ça que pour l'instant.
Un business. C'est pas mal quand même.
C'est ça, c'est pas mal du tout. Mais bon, après, je me dis, ça fait énormément d'emplois aussi.
Par exemple,
en Amérique, il va y avoir des. En fait, il y a des personnes qui sont employées. Ils ont la vidéo et ils doivent régler le logiciel pour que les sièges suivent en fait.
Ah ouais ?
Et ouais, et franchement, ça, à Hollywood, ils sont en train de partir
là-dedans.
Hollywood,
voilà, c'est un autre monde ça.
C'est ça, mais c'est dans une émission sur 01net. Je serais plus du tout dire franchement le nom de l'émission. Et vous tapez 4DX sur internet et puis vous allez voir la présentation notamment de Paris La Villette au cinéma Gaumont-Pathé. Vous allez voir et franchement c'est une expérience qui a l'air pas mal du tout.
J'ai une question.
Oui.
T'es très très débile. Hein.
C'est pas grave, ça te ressemble.
T'as l'habitude. Pourquoi X ? Pourquoi 4DX ? Parce qu'on avait la 3D tout court. Et pourquoi la 4DX ?
Alors la 4DX, déjà, il me semble, parce que déjà la 3D, tu sais, c'est la troisième dimension, donc c'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens. Et 4DX, je sais pas, moi, c'est comme SpaceX. Pourquoi il y a un X à la fin ?
Ouais, d'accord.
À mon avis, le X, il exprime juste, tu sais, le fait
la
que
sensation
c'est ça, c'est un nouveau truc.
D'accord. Okay.
Tu sais, c'est comme les i devant quelque chose. Ouais. iPhone, c'est le dernier truc, technologique et tout, blablabla.
Ça marche.
Donc voilà. Et toi, tu aimerais bien tester ce genre de truc ?
Ah bah carrément.
Apparemment, avec ton genou en moins, ça devrait passer parce qu'il y a des gens même qui où ils avaient des problèmes de colonne vertébrale ou quoi et c'est pas violent au point de.
Oui, non, mais après voilà, c'est pas comme si t'étais dans un manège à sensations fortes, hein, non plus.
Non, parce qu'autant tu vois dans dans les autres que j'ai fait, il y avait des sangles, tu sais, comme dans, ouais, dans les manèges qui tiennent, enfin, ça passe par-dessus les épaules. Et là, autant, t'étais juste posé dans le siège, en fait.
Ouais, non, mais après,
ça bouge un petit peu, quoi.
Faut que tu penses que si ça, ça a été créé, c'est pour n'importe qui, que
c'est
ce soit
ça,
pour les enfants, les personnes plus âgées, les adultes. Donc, tu vas pas mettre un enfant dans un manège à sensation qui tourne super vite.
Ah, parce que là, voilà, debout de la salle,
volent,
allez, hop,
et puis les personnes âgées vont faire un arrêt cardiaque dans le cinéma, donc c'est pas forcément adapté non plus, quoi.
C'est pas mal parce qu'il y a de l'eau pour les personnes âgées, du coup, on va pouvoir se resécher, tu vois, pour se réhydrater. C'est pas mal du tout.
C'est intelligent.
Bah écoute, Débo, si un jour on a l'occasion d'y aller, et bah, on va raconter tout ça à la radio.
Bah carrément.
Franchement, ça c'est un truc génial à faire, même interviewer les personnes là-bas pour leur demander comment ça se passe et tout.
Excellent.
Ça serait une expérience géniale à faire. Ouais. Écoute, on pourrait essayer de voir ça cet été.
Ouais, pourquoi pas.
Mais écoute, moi j'ai ma tante qui habite à Paris, peut-être que je vais pouvoir
essayer de négocier. J'ai mon tonton qui habite là-bas, je devais aller lui faire un petit coucou. Donc,
Eh bien écoute, ce serait franchement parfait qu'on puisse faire
ça. Ah, ouais, ce serait excellent.
Eh bien écoutez, ceux qui nous suivent sur Facebook, si vous voulez qu'on aille essayer de tenter une expérience comme ça à Paris, eh bien vous nous le mettez en commentaire, vous nous envoyez un message, il n'y a pas de souci, sur la page Unless, UNLE2S. Et puis, bah écoutez, on va essayer de tenter ça serait franchement pas mal, écoute.
C'est vrai.
Avec une petite présentation de qu'est-ce que c'est que la 4DX et puis un peu le truc qui est en train de révolutionner le cinéma actuellement. Eh bien, mes chers amis, après avoir fait tout ce blabla, eh bien, on va s'écouter maintenant Rammstein Du Hast.
Rammstein, s'il te plaît.
Rammstein Du Hast. Voilà. je sais très mal parler allemand, c'est toi qui sais parler allemand.
Ouais.
Donc voilà, je peux vous parler russe si vous voulez, mais je pense que c'est pas adapté pour la radio.
Non, s'il te plaît, non, reste au français, ce sera très bien.
Voilà, allez, on s'écoute de suite Rammstein Du Hast.
Rammstein.
Rammstein Du Hast. On est sur Radio Pont, il est actuellement 18h10.
Radio numéro 1 dans votre région.
Alors mes chers amis, on a fait dernièrement une interview avec Alex Rebec, qui fait partie de la direction du Hellfest.
De la production du Hellfest.
De la production du Hellfest. On a une interview avec lui, on vous l'a fait écouter de suite sur Radio Pont. Le Hellfest, tu peux nous décrire vite fait ce que c'est ?
Alors c'est un festival de métal qui se déroule du 15 au 18 juin et on peut écouter des grands groupes. Et après, si vous voulez plus de renseignements, venez me voir en message privé sur la page et puis je vous expliquerai tout. Sinon, écoutez l'interview qu'on va vous passer et puis vous aurez beaucoup de réponses à vos questions.
Eh bien, on vous envoie ça tout de suite. Il est 18h13. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Pont dans l'émission Unless. On écoute Alex Rebec.
Moi, je suis le directeur du festival. Donc, je m'occupe de faire toute la promotion.
D'accord.
Donc, tu vois, toute la promotion et tout le rayonnement de la marque. Donc, que ce soit la gestion des réseaux sociaux, des communiqués, de quelques partenariats, de toute la ligne éditoriale, hein, tu vois, c'est moi qui remplace Benjamin quand il n'est pas en mesure de pouvoir parler. Et à côté de ça, je m'occupe de faire toutes les activations et les opérations satellitaires qu'on fait durant l'année. Donc, tu vois, on a fait un prix littéraire cette année, on a fait l'opération du film Red Bull, on a fait le monde des tatouages. Là, je suis actuellement en tournée pour la grande tournée du warm-up. Voilà. Et aussi, je suis le chef de projet du Hellfest Cult, de notre grand fan club. Mmh. Où pareil, on fait pas mal d'activations et de rencontres. Tu vois, on chante pas. Il y a du boulot.
Ouais, je me doute. Et depuis quand tu fais partie de l'organisation ?
Moi, je suis arrivé à la production en 2011.
D'accord. Et tu peux expliquer brièvement ton parcours ?
Eh ben ouais, moi j'étais à la base dans la publicité et j'ai toujours fait de la musique, tu vois, en tant que musicien ou en tant que promoteur. Ça m'a toujours fait kiffer et un jour j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un stage au sein du Hellfest, donc j'ai tout plaqué. J'étais cadre à Paris, j'ai tout plaqué pour repartir par la petite porte et devenir stagiaire. Donc à la production, où j'étais en charge de l'accueil des artistes, de faire la régie de l'hôtellerie et de toutes les navettes. Je fais un stage de 4 mois et 6 mois après, Hellfest m'a rappelé pour me proposer un poste à temps plein. Et 2 ans après, comme j'avais un peu de wawa, il y a une organisation d'organigramme, on a l'opportunité de prendre la tête de la com.
Voilà. D'accord, ok.
Voilà, j'ai des idées, pas trop loin de ça. Donc c'est ce qui fait un peu avancer les choses.
Tu peux nous dire quelque chose d'autre sur toi ?
Je sais pas, écoute, moi j'ai 38 ans. Ouais, tu vois, j'habite à Clisson. Bon, on va dire quelque chose sur moi, qu'on a la chance de pouvoir travailler dans ce milieu-là, tu sais. Maintenant, en fait, c'est plus une expérience, c'est vraiment une expérience personnelle. On parle vraiment d'aventure humaine, donc. Même si c'est un projet qui est hyper 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 chronophage, parce que tu vis Hellfest, tu manges Hellfest, tu chies Hellfest, tu dors Hellfest, tu penses Hellfest, je suis quand même très content de pouvoir m'épanouir, hein, parce que je parle bien d'épanouissement dans ce milieu-là. Voilà, à part ça, écoute, je suis actuellement célibataire, donc on cherche. Voilà, si vous êtes jeune et passionné, je suis à votre écoute.
D'accord, pas de soucis. Maintenant, j'aimerais bien parler du festival.
Ouais.
D'où Ben Barbeau a-t-il eu l'idée du Hellfest ?
Ah bah là, tu sais, ça remonte quand il était minot. Lui, il avait fait des études dans le Pinard, donc à la base, il n'était pas forcément destiné à faire ça. Mais lui, c'était un passionné de punk, et tu vois, quand il était jeune, il organisait ses petits concerts à droite à gauche, autour de Nantes. Et en fait, son idée, c'est que lui, en étant dans le Loire-Atlantique, il était un peu éloigné de toutes les routines que proposaient les tournées. Donc il s'est dit, bah, plutôt que de me déplacer à chaque fois pour aller voir mes groupes favoris, bah, j'ai peut-être commencé à organiser quelque chose et à proposer au groupe de venir chez moi. Donc il a commencé à faire en faisant des petits concerts. Après, il a monté le Fury Fest, qui a été exporté au Mans. Et après, le Fury Fest a fait que il a été racheté par des promoteurs un peu véreux. Il a essuyé des casseroles. Et mais il s'est pas laissé abattre, hein, même s'il avait pas mal de problèmes au cul quand le Fury Fest a sombré. Il a remonté à Hellfest. Il y a eu 2 ans un peu difficiles. Et c'est vraiment en 2012 que le projet a éclaté et que maintenant, il explose. Il monte. Et qu'il a commencé tout seul dans sa chambre. Maintenant, il est à la tête d'une équipe de 14 salariés dans les bureaux avec 3500 bénévoles qui le suivent. Et, comme je disais tout à l'heure, c'est une aventure humaine. Hein. Mais c'est sûr que lui, au début, même s'il avait une idée un peu particulière dans sa petite tête du projet, il était loin de se dire que Hellfest est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Ensuite, comment ça s'organise le site du festival? Le nombre de scènes, le style de musique et puis les aménagements qu'il y a autour?
C'est un peu compliqué. Nous, maintenant, le truc, c'est la plupart des festivals, sur un festival classique, on propose une affiche de groupe avec les t-shirts à droite et les frites à gauche. Le principe du Rickfest, maintenant, c'est plutôt proposer une expérience plutôt qu'un simple line-up, bien que nous, on ait un line-up de 170 groupes, ce qui n'est pas négligeable, hein, on est parmi les seuls à faire ça. Et après, en termes d'organisation, nous, à la programmation, ils sont trois à choisir le groupe. Donc, il y a toute une réflexion, même une science de pouvoir composer les scènes, puisque chaque scène a une couleur en fonction des jours, en fonction du style. Donc, c'est quand même quelque chose qui demande quand même de l'attention et de la réflexion. Et surtout, il faut avoir une démarche intelligente, parce que nous, on mixe des géants comme Aerosmith, ouais. Comme avec des petites pépites ou des nouvelles découvertes de l'underground. Donc, c'est ça aussi qui a toujours fait le succès du festival. Maintenant, en termes d'organisation, t'imagines, nous on construit une ville, hein, donc maintenant on fait des investissements colossaux d'année en année. D'ailleurs, on crée un parc, hein, le site du Hellfest est devenu un parc où les gens peuvent se balader toute la journée, mais tu vois, outre les 6 scènes, j'ai envie de dire même 7 scènes, même 8 scènes, parce qu'il y aura une nouvelle scène sur les 6 soirs cette année, tu vois, nous on travaille avec des plasticiens, on travaille avec des décorateurs, on essaie de mettre en place des ambiances dures, des ambiances nocturnes, pour que n'importe quel néophyte d'un festival ou même des gens qui ne sont pas forcément écouter de la musique amplifiée ou écouter du métal puisse passer un bon moment. Ouais. Donc on est vraiment dans cette histoire d'entertainment, hein, et d'expérience et d'immersion. Après, tu as quand même beaucoup en termes d'installation, c'est sûr, c'est énorme. Je te dis, on construit une ville, donc c'est l'électricité, tu vois, on met la fibre optique cette année, c'est les réseaux d'eau, c'est tout construire, tout démonter. Donc, on travaille beaucoup de produits de professionnels, on a un club d'entreprise, c'est tellement vaste que, tu vois, c'est un peu difficile de répondre comme ça à la question.
D'accord, je comprends. Et combien de temps ça me prend l'installation de tout le site et tout à chaque édition?
Il faut compter entre 6 et 7 semaines. Ouais. Sachant que nous on a des installations pérennes qui restent, tu vois, d'année en année, tu vois, les superstructures sont en place, la pelouse en entretien, on a fait des travaux de PPP régulièrement, on a refait des rôles, on a refait des routes, on a refait des réseaux d'eau. Donc on améliore. Ouais. C'est ce qui nous permet, tu vois, de proposer de nouveaux aménagements chaque année, quoi. Même si nous on les finance sur plusieurs années, hein, c'est des choses qui sont pas rentabilisées en un an, tu t'imagines bien tellement c'est gros. Mais tu vois, par exemple, cette année, on fait un tout nouveau VIP. Donc, c'est nouveau construction, enfin, on crée un bassin, on rajoute une infrastructure en dur qui pourrait être exploitée pendant l'année. Enfin, c'est comme si on construisait un immeuble. Hein. Donc, là, on est vraiment sur le permis de construire. Donc, on contrôle des ingénieurs et les maîtres d'œuvre.
D'accord. Ouais, donc, à chaque fois, vous améliorez pour pas toujours avoir la même structure.
Ah, ben ouais. Après, le délire, c'est que nous, on essaie toujours d'être à l'écoute des festivaliers, tu vois, quand on s'est aperçu il y a 2 ans que la Warzone devenait la deuxième scène la plus importante après les main stages, et ben, on a dû tout raser, récupérer des terrains pour aménager un nouvel espace et surprendre les festivaliers. Donc, c'est vrai qu'on était très contents de trouver notre nouvelle Warzone. Mais tu peux imaginer que construire un truc comme ça, c'est une année de travail, de vie, de réflexion, hein, et surtout qu'en plus tu peux voir les résultats quand même en exploitation.
Combien d'entrées vous faites par an à peu près?
Nous, on fait un peu moins de 55 000 personnes par jour. Sachant que là, je te parle des vendredis, du samedi, du dimanche. Et que nous, on a le jeudi qui est ouvert, une partie du festival est ouverte, donc le City Square, le Metal Corner, le Camping est ouvert le jeudi, et c'est des gens qu'on ne comptabilise pas, mais là, on accueille facile 35 000 personnes aussi le jeudi.
Ah oui, d'accord. Maintenant, j'aimerais bien parler du culte.
Ouais.
Donc, est-ce que c'est possible d'abord que tu définisses le culte pour le jeudi?
C'est un projet que j'ai monté il y a 4 ans. C'est avéré que moi, j'avais vu, je me suis rendu compte, il y a pas mal de gens qui viennent à Hellfest seuls. Parce que quand t'écoutes du métal, parfois t'es un peu impérial dans la société, t'es pas forcément t'es seul à écouter cette musique. Donc je me suis dit, pourquoi pas, comme nous on a fait au sein de nos équipes, ce qu'on appelle le Hellfest Group, pourquoi pas créer un club de copains au sein du festival, où les gens pourraient se retrouver et dire, moi je veux Hellfest, finalement j'y vais seul, entre guillemets, mais je vais retrouver des gens qui sont fans et je vais les retrouver sur l'exploitation. Oui. C'est un projet que j'ai monté il y a 4 ans, qui a complètement explosé, hein, puisque maintenant c'est avéré que tous les membres on arrive à les réunir durant toute l'année au travers de simples apéros, de rencontres, mais aussi avec des grosses activations que nous, FS, on met en place. C'est un grand club de copains où tu mélanges un peu tous les corps de métier. Tout simplement, quoi, tu vois. Et en fait, la marque maintenant est assez fédératrice pour pouvoir proposer à ces gens-là de leur dire, t'es dans ta province, il se passe rien, mais sache que grâce à ce projet-là, grâce à les réseaux sociaux et les outils qu'on passe, tu n'es pas seul, figure-toi que dans 10 jours, on fait un événement où on va être 20, 30, 50, 200, 300, on va même parfois jusqu'à, on fait un événement avec le fan club en octobre, on privatise un grand village de vacances, donc ça devient une espèce de grande colonie de vacances aux couleurs du Hellfest, où les gens viennent, sont invités, on leur met des concerts, on leur met des solutions d'accueil, d'hébergement. En fait, ça permet aux gens de pouvoir se retrouver. On a créé une espèce de famille, un club de copains. D'accord. Et ça marche très bien. Par contre, moi, je limite les places. D'accord. Parce que nous, on cherche toujours à avoir une certaine proximité avec nos fans. Et que tu vois, moi, sur un fan club où j'ai 1500 membres, si j'avais 10 000 membres, je ne pourrais pas être aussi proche de ces gens-là. Ouais. Nous, ça nous donne l'opportunité de les rencontrer, de discuter, d'avoir vraiment cette proximité. Ces gens-là deviennent un peu nos émissaires. Et c'est toujours important quand tu parles avec quelqu'un, que tu l'expliques, tu prends le temps en buvant de bière à lui expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et les gens, ils ont plein de questions sur l'Hellfest. Et tu ne peux pas, sur les réseaux sociaux, tout expliquer. Mais quand tu es avec les gens, quand t'es avec eux, et là il serait quelque chose. En plus, on est toujours dans une quête de considération, de leur dire, écoutez, on est là, on vous écoute, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Et en plus, tu vois, avec le fan club, outre tous les petits services qu'on met en place, ils ont l'opportunité, eux, pendant le festival, d'avoir une zone privée, un espèce de VIP qui est destiné qu'à ces gens-là, qui n'est pas pour les bénévoles, qui n'est pas pour les artistes, qui n'est pas pour les VIP, qui est que pour ces gens du fan club, où à l'intérieur, ils ont des concerts, ils ont des apéros gratuits, ils ont des petits services, tu vois, on leur met de la réflexologie pour se faire masser, ils ont des canapés, ils ont des hammams où ils peuvent dormir, ils ont le service de petit-déj, ils ont des petites planches pour l'apéro, vraiment un endroit où pendant le Hellfest, tu sais, quand c'est, parce que c'est physique, comme le Hellfest, quatre jours à faire la bringue, mais c'est l'endroit où tu peux te dire, bon, écoute, on se retrouve là, parce qu'on sait qu'on pourra se retrouver, que c'est un accès que nous, on peut avoir, il n'y a que nous qui pouvons avoir l'accès, et on va pouvoir s'y retrouver pour se reposer pendant une heure, avant d'aller revoir un concert. Et le soir, c'est notre dynamique, c'est l'after party avec les partenaires alcooliers, et puis ça devient un bon boulot jusqu'à 5h du matin.
D'accord. Et en fait, t'as répondu à toutes mes questions. J'ai même pas eu le temps de les poser que t'as déjà répondu. Du coup, maintenant on va parler des bénévoles. Donc, il y a combien de bénévoles sur le site à peu près ?
Nous, on a à peu près 3500 bénévoles.
3500 ? Ah oui. D'accord. Et à quel âge peut-on faire la demande pour devenir bénévole ? Et est-ce que déjà tout le monde peut devenir bénévole ?
Ouais, tout le monde peut devenir bénévole. Bon, après, on a quelques mineurs, mais on essaie quand même d'avoir des personnes majeures. Mais on a de 16 jusqu'à 90 ans.
Ah oui. Ah d'accord, ok. Et ils sont répartis où sur le site ?
Bah, ils sont partout, hein. T'as les bénévoles partout, quoi. Partout. Donc, que ce soit au camping, à la gestion d'accueil, aux poubelles, aux artistes, partout. À 3500, ça fait du monde. Hein. Ouais. Ça fait du monde. Tu vois, rien qu'en barman, on a 500 barman. Donc, ouais. Ça en fait.
Effectivement.
Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, ces gens-là, ils se sont. Parce que nous, on essaie toujours de laisser les gens s'approprier le festival. Ils s'approprient le festival, ils sont contents. C'est des gens qui comptent pas leurs heures, qui sont passionnés, qui sont toujours contents de retrouver leurs copains. Et généralement, quelqu'un qui est bénévole, il redevient jamais festivalier. Il veut toujours participer. Parce que tu vis le festival d'une autre façon, avec tous les à côté. Tu sais, cette énergie, cette dynamique que tu n'as pas quand tu es festivalier, c'est une expérience différente. Et généralement, quand tu es festivalier et que tu passes bénévole, tu redeviens jamais festivalier. Quoi. Tu veux rester dans cette aventure.
Bah, je comprends en même temps. Maintenant, les difficultés, les imprévus qu'il y a eu, on a appris qu'il y avait eu un incendie, excuse-moi. Qu'est-ce qui l'a provoqué ?
C'est rien, on a eu un problème électrique dans le local du merchandising. Et tu sais, nos locaux, c'est dans une vieille bâtisse de 1860, donc tout est en vieux bois, et le feu a pris dans les locaux du merchandising, où là, tu sais, il y a tous les produits dérivés à base de pétrole et tout ça, donc ça a pris très vite. Bon, on était tous là, donc on s'est tous serré les coudes, on a vraiment réussi à gérer, tu vois, il n'y a pas eu de blessés. Par contre, l'incendie, ça allait tellement vite que là, on a perdu, la moitié de nos bureaux. Mais ça nous empêche pas de travailler parce que on s'est remis dans l'autre côté des bureaux, on se sert un petit peu. Et tu sais, nous, pour travailler, il nous faut un téléphone, une connexion internet, un PC, et puis c'est parti, quoi.
Ouais.
Non, les conséquences, c'est que on a été un peu retardés parce que tu sais, c'est toujours un peu compliqué de se battre avec les assurances, hein, c'est du temps perdu, mais ça ne met pas du tout en péril le festival, hein. Après, c'est sûr que l'activité du merchandising, quand tout a roulé, on est obligé de relancer une collection. Mais ça n'est pas en demeure, ça n'est pas en péril le festival, bon, là, quoi.
Ok, bon, c'est cool alors. Et c'est quoi les imprévus les plus difficiles à gérer en période de festival?
Les imprévus, c'est le climat.
Ouais.
C'est le climat et les annulations. Donc le climat, on peut rien faire. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut pour proposer des infrastructures. Bah, tu vois, l'année dernière, quand on avait plus de mercredi, on a dû tout racler, mettre les campus partout pour pouvoir accueillir les festivaliers. Parce que tu sais que nous, on veut pas avoir cette image de festival dans la boue. Hein, donc on veut vraiment que les conditions soient optimales. Parce que si tu passes un festival dans des conditions catastrophiques, tu gardes un mauvais souvenir. Donc nous, on veut vraiment que les festivaliers se sentent bien. Mmh. Et là, on lutte. Après, dans le climat, on peut pas y faire grand-chose. Hein, on est tributaire de ça. Et après, on est aussi tributaire des annulations. Quand un groupe dit « oui, je viens au Hellfest », et que 3 mois après, il dit « j'annule », les festivaliers sont pas contents, mais c'est pas notre sort. Hein. Mmh. Ça, c'est les groupes.
Hein. Et en parlant des groupes, est-ce qu'il y a un groupe qui t'a demandé un truc vraiment invraisemblable et tout soit au dernier moment ou pendant l'édition?
Il y a toujours, tu sais, en fait... Nous, on a, tu sais, dans chaque groupe, possède un rider personnel. Donc, c'est des conditions qu'il impose aux promoteurs. Nous, on marche pas comme ça. On a tellement de groupes qu'en fait, on a un rider unique festival qu'on impose au groupe. Mais on propose des conditions d'accueil excellentes pour les musiciens. En plus, on leur propose de partager des loges. Donc, nous, on a beaucoup de groupes, tu sais. Donc, qu'ils soient petits ou gros, ils sont tous mélangés. On est vraiment aux petits soins, hein, tu vois, ils ont tout, ils ont à manger, à boire, ils ont des belles loges, ils ont un coiffeur, ils ont styliste, ils ont masseur, hein, pour vraiment que dès qu'ils arrivent, ils soient de suite en confiance, parce qu'on veut que les artistes soient vraiment en confiance avant de passer sur scène. Après, c'est vrai que nous, après, on a aussi des groupes, des très gros groupes, donc les têtes d'affiche, et oui, c'est vrai que parfois, il faut vraiment, nous, on débloque une équipe à part entière pour ces gens-là, parce qu'ils sont vraiment dans la démesure, dans la réclamation que l'on veut tel type de vin, tel type de vin, on veut qu'il fasse telle température, on veut que la loge soit telle couleur, on veut aller là, on veut tel type de véhicule, donc on va pas sortir les dossiers, c'est toujours assez là. Quand tu parles des stars internationales, ils ont des petites exigences et on doit s'y plier.
D'accord. Et que doit faire un groupe de musique pour avoir la chance de jouer au Hellfest?
Pour avoir la chance, déjà il faut que il faut qu'il rentre un peu dans le groupe. Mais on prend tout, tu sais, on suit beaucoup un peu les réactions des festivaliers, de l'actualité. Il faut qu'on sente que les gens aient vraiment envie de voir ce groupe sur notre scène. Après, il faut que dans la conception de la couleur de la scène, il faut qu'il ait sa place, parce que nous, même si on brasse, on a 6 grandes scènes, on peut pas accueillir tous les groupes veulent jouer chez nous. Donc on est bien conscient que nous on a des groupes que les gens veulent voir et revoir, donc on les met. On a aussi un quota de nouvelles découvertes, de nos coups de cœur. Il y a des gens qui restent focalisés sur les têtes d'affiche, mais il ne faut pas. Il faut savoir que nous, on fait un renouvellement chaque année de 50% de nos artistes. 50% d'artistes n'ont jamais joué sur le festival. Donc, pour pouvoir jouer, il faut tout simplement nous contacter. Et puis voilà, après, il faut quand même avoir de l'actualité. Il faut aussi avoir le niveau, hein, parce que même si on prend des petits groupes, ça reste quand même des groupes qui jouent. Hein, donc, les groupes amateurs, nous, on est aussi... On a une scène, tu vois, sur le Metal Corner, on accueille des groupes un peu plus amateurs, ou là, sur la scène du Fescut, on accueille aussi comme ça. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Tu peux pas dire, lui, il est sûr de vouloir jouer, hein. Ça fait des sûrs de pouvoir jouer, hein. Généralement, oui, il faut passer, il faut envoyer un dossier de presse, il faut pouvoir, entre guillemets, vendre son groupe, hein, bien évidemment. Ouais. Et puis ça dépend des conditions qu'il demande aussi.
Oui. Et combien de décibels génère le site?
Je sais pas, moi je peux pas te dire, mais on a des, on travaille avec des techniciens qui suivent la nomenclature, la procédure officielle. Mmh. Donc nous, on n'est pas comme Manoir à jouer le plus fort, hein. Non, on respecte tout ça.
D'accord. Ok. Maintenant, je reviens un peu sur l'organisation. C'est qui se prend la tête à organiser le Running Order?
Le Running Order, ils sont trois à la programmation. C'est Benjamin, le grand inquisiteur, hein, ouais. Celui qui décide. Et il faut savoir qu'avec six scènes, avec beaucoup de groupes qui jouent en même temps, c'est un vrai Tetris. Hein, parce que tel groupe va te dire, l'agent va te vendre un groupe, va dire, il ne doit pas jouer avant telle heure. Après, il va dire, bah, je veux pas jouer après tel groupe, ou en même temps que tel groupe. Donc, faut le dire, hein, c'est la partie chiante des programmateurs. Ils se prennent vraiment la tête. Et le truc, c'est quand tu commences à bouger à droite, et ben, ça fait des influences à gauche, en haut, en bas. Donc, c'est vraiment un plaisir.
Et puis, bah, j'ai bientôt terminé, mais il me reste quand même quelques questions, bah, plus par curiosité, en fait. Combien de temps a-t-il fallu pour construire la statue de Lemmy?
Ah ben, je sais pas, mais je pense que Jimmy a dû faire ça. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on l'avait commandé, on en parlait en décembre, et je crois qu'il a commencé les travaux en janvier. Donc tu vois, janvier jusqu'à juin. Ouais. Bah voilà, parce qu'après il a fallu mouler le visage. Donc en fait, il travaillait en atelier. Ah ouais, tu comptes, je sais pas, peut-être 4 mois, quoi. C'est quand même beaucoup de boulot.
Ouais, ouais. Bah oui, c'est pour ça. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot rapide sur l'édition précédente?
L'édition précédente, eh ben écoute, l'édition précédente, mais ça a été un vrai succès pour nous. On s'est fait quand même, entre guillemets, surprendre par le monde, parce que c'est que nous, les grandes scènes, depuis 2012, le terrain des grandes scènes n'a pas changé, et qu'en 2012, on n'accueillait pas forcément les mêmes groupes qu'en 2016. Et quand Rammstein est arrivé, tout le monde voulait voir Rammstein, donc on a bien constaté qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. En plus, on a un public qui est de plus en plus fédérateur et qui souhaite se mettre devant les main stage. Donc notre premier constat, ça a été, bon, on a plus assez de place devant les main stage, il faut agrandir. Et bah nous, on n'est pas forcément dans, on peut pas vraiment agrandir parce qu'on peut pas faire pousser du terrain. Donc à la fin de l'édition 2016, on a dit bon, on va raser toute une partie de nos installations qui sont vite les loges, on va les délocaliser. Donc on a cette année, on rajoute l'équivalent d'un terrain de foot devant les main stage pour pouvoir proposer aux gens d'avoir plus de place et plus de visibilité sans pour autant augmenter la jauge. Et on est obligé de délocaliser, tu vois, de délocaliser notre vie, délocaliser le catering, délocaliser les loges, délocaliser la presse. Donc ça, c'est des gros travaux qui restent invisibles au sein du public, parce que c'est des zones qui sont techniques. Et voilà, c'est un peu le constat de l'année dernière, quoi. Et après on avait notre Warzone qui est arrivé, et la Warzone, c'est sûr que là, ça fait très fier.
C'est sûr. Et on pourrait avoir une petite information sur l'édition 2017, ou c'est une surprise?
Non, mais l'édition 2017, écoute, on est en train de préparer tout ça. Il va y avoir des nouvelles pages, je te dis, il va y avoir des agrandissements, il va y avoir encore plus de feu, il y a un nouveau VIP, il va y avoir une nouvelle entrée, il y a un nouveau Hellgate, une nouvelle scène sur le Hellgate aussi. On va avoir une chapelle Jägermeister qui va pouvoir te marier avec un église diabolique. On va avoir, il va y avoir un nouveau système pour faciliter le rechargement à cashless, plein de petites choses. Enfin, plein de petites choses. Chaque année, on essaie vraiment de proposer de nouvelles choses pour surprendre les festivaliers.
Ouais, bah, c'est cool. Et toi, personnellement, c'est quelle édition t'as préférée?
Ah bah c'est particulier, parce que moi, tu sais, moi je travaille, donc je vois pas vraiment je vois quasiment aucun groupe. Je suis dans mon bureau, je règle les problèmes, donc les ETG, elles sont toutes bien par entière, hein. Mais c'est vrai qu'après les 10 ans, c'était quelque chose, surtout quand il y a eu le feu d'artifice, et que il y a vraiment une montée d'émotion, hein, c'était quand même quelque chose.
Et bah écoute, moi j'ai plus de questions, t'as tout répondu, et puis il y a même des questions que je me posais pas, t'as répondu quand même, donc
parfait.
Je te remercie beaucoup.
Pas de soucis, Deborah. Mmh. On se tient au courant.
Ok. Ciao.
Mais je te remercie. Je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Au revoir.
60.
Eh bien, mes chers amis, nous étions avec Alex Rebec en
interview.
Ouh là là, il est 18h38. Ouais, ça sent la fin. Il est 18h38. Alors, ma chère Debo, nous étions dans cette deuxième émission de Unless. Juste avant, on fait un petit récapitulatif. On vous dit que vous pouvez nous contacter par la page Unless. Donc, c'est-à-dire liker la page, etc. Suivre toutes les actualités. Donc, Unless, UNLE2S. Vous suivez sur Facebook, il n'y a pas de souci. Et puis, on vous propose des parcs, etc. Vous venez juste raconter une histoire en direct et puis on vous offre les places pour partez avec ça. Voilà, voilà, Debo, as-tu aimé cette deuxième émission pour cette deuxième expérience de radio?
Ah bah oui, carrément.
Ah, carrément, ouais, avec la 4DX, etc.
Ah ouais, c'était plutôt bah, cool.
On a bien développé, il me semble. Eh bien, écoute, ma chère Debo, on va se donner rendez-vous dans une prochaine émission, vous inquiétez pas, tout le monde. On se donne rendez-vous bientôt, et puis écoutez, on est bientôt parti. Voilà, il est 18h38. Merci de nous avoir écoutés. Vous étiez sur Radio Pont. Merci à toi, Debo. On se retrouve dans une prochaine émission.
Bisous, Antoine.
Allez, bisous tout le monde. Merci à tous d'avoir écouté. On est sur Radio Pont. On vous laisse tout de suite avec DJ Catch The Horn.